Je vous invite à prendre votre Bible et l'ouvrir dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 5. Voilà un homme qui connaissait beaucoup de l'amour de la croix, qui a vu Jésus sur la croix, qui l'a vu saigner, qui l'a vu mourir, qui a été totalement transformé par cette rencontre avec Jésus, bien sûr. Et puis cet homme qui, souvent, se prenait mal, parlait trop vite, parlait souvent de choses qui, finalement, il ne comprenait pas. Et lorsqu'on lit la première épître de Pierre, écrite quelques décennies plus tard, et on voit comment cet homme a été transformé, on voit la douceur, on voit l'amour, la compréhension de ce frère. Parce qu'on peut l'appeler frère. Un jour, on le verra. Si on connaît Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, bien sûr. C'est ça la condition. Mais un jour, on pourra rencontrer Pierre. Vous savez, j'imagine, on aura beaucoup de questions pour lui. Et il va pouvoir répondre. Et heureusement, il nous apporte quelques réponses dans son épître. Et au chapitre 5, nous allons voir, je vais surveiller l'heure, mais en principe, nous allons terminer ce chapitre. Sinon, on terminera la semaine prochaine. Mais ce chapitre 5, nous avons parlé de l'humilité la semaine dernière. Humiliez-vous, donc, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Au temps convenable, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. L'avez-vous fait cette semaine? Allons-nous le faire cette semaine? Et il est assez intéressant que juste après avoir parlé de l'humilité, de l'orgueil, Pierre va évoquer quelque chose qui nous surprend peut-être. Il va évoquer quelqu'un et on va dire, il faut de l'humilité, n'est-ce pas? Au verset 8, c'est là où nous commençons ce matin. Au verset 8, soyez sobre. Alors, soyez, c'est un impératif, c'est un commandement. Et la façon dont Pierre s'exprime ici, c'est commencer. C'est commencer. C'est apparemment quelque chose que les chrétiens auxquels il écrivait ne faisaient pas. Mais ici, il leur dit, commencez. Vous n'êtes pas dans cet état, mais soyez sobre. Et là, on va dire, mais moi, je ne bois pas. Moi, je ne suis pas sous, moi. Moi, je suis raisonnable, ou peut-être que je ne bois pas du tout, mais je ne m'enivre pas. Moi, je suis sobre. Et finalement, nous avons déjà vu ce mot dans ce livre, et c'est plus l'idée d'être alerte, d'être réfléchi. Et Pierre dit ici, soyez sobre, soyez alerte. D'ailleurs, il va, le mot suivant, confirmer cela, veillez. Veillez. Comme quelqu'un qui est sur la muraille, sentinelle, qui regarde, et si jamais il s'endort, alors là, catastrophe. Soyez sobre, soyez alerte, veillez. Et on se demande si Pierre ne pensait pas à ce que Jésus lui avait dit dans le jardin de Gethsémané. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre, Jacques et Jean? Veillez et priez. Jésus lui-même a prié avant d'aller à la croix. Et il demandait à ses disciples de faire de même. Et il est possible que Pierre avait cela en tête. Il s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Veillez, priez. Mais on se dit, mais Pierre, pourquoi être alerte? Pourquoi veiller? Contre quelle attaque? Contre quelle circonstance? Contre quelle personne? Et effectivement, Pierre va être très précis ici. Veillez, soyez alerte, soyez sur vos gardes. Votre adversaire. Alors, l'adversaire, c'est ici un terme de procès. C'est la partie adverse dans un procès. C'est comme Satan est là, puisque c'est bien de lui qu'on parle. comme notre adversaire, comme celui qui accuse. D'ailleurs, la Bible va l'appeler l'accusateur des frères. Votre adversaire. Vous rendez-vous compte que vous avez un adversaire. Et ce ne sont pas les membres de votre famille. Hein? Même si parfois on en a l'impression. Ce ne sont pas les collègues de travail. Même si parfois ils se comportent en adversaire, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les gens de dehors. Non, 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 non. Il y a des conflits, bien sûr. Il y a des tensions. Il y a des frustrations. Il y a des choses difficiles. Mais ce ne sont pas là nos adversaires. Non, 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 non. Notre adversaire, c'est Satan. C'est le diable, comme Pierre va l'expliquer ici. Le diable, et il est actif. Honte à nous que nous soyons passifs, alors que Satan, lui, il est actif. Vous savez, Satan ne dort pas. Satan, lui, ne se lasse pas de s'en prendre à nous. Il est notre adversaire. Et ce n'est pas juste l'adversaire de tout le monde, comme ça, mais c'est quelque chose de personnel. Il est votre adversaire individuel. Satan ne se contente pas de cibler juste un grand groupe en disant « Bon, voilà, je vais mal agir, je vais tenter, je vais mettre la pression sur ce groupe. » Non, souvent, il cible des personnes individuellement. Et il est vrai que très souvent, nous ne parlons pas du domaine surnaturel. Nous ne parlons pas de ce monde invisible. Et c'est dommage parce que ce monde, il existe. Le monde invisible est réel. Parce que nous ne pouvons pas le voir, ne le rend pas moins dangereux, ne le rend pas moins réel. Malheureusement, certains sont allés trop loin, se sont donnés à des extrêmes et ont inventé sans aucun appui biblique ou parfois même de leur propre expérience, eh ben, ils sont allés et ont donné trop de poids à ce monde invisible. Comme si c'était ça le plus important. Non, 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 non. Et en réaction à cela, eh ben, malheureusement, dans le monde évangélique parfois, le monde biblique même, on met ça de côté en disant « on n'en parle pas, ça n'existe pas, on met l'accent sur la Bible, sur notre vie avec Dieu et tout, et puis tout ira bien. » Et les deux extrêmes sont à éviter. Le monde invisible existe. Satan existe. D'ailleurs, la plus grande réussite de Satan, c'est quoi? C'est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Satan voudrait tellement que les gens disent « il n'existe pas ». Ou qu'on le représente comme ce petit diable rouge. D'ailleurs, je ne sais pas exactement d'où cela vient. Je n'ai pas cherché l'origine, mais voilà. La Bible ne le présente pas ainsi. Non, non, non. La Bible présente Satan, d'ailleurs, comme un être tellement beau. Une des plus magnifiques créatures de Dieu. Il est présenté parfois comme un ange de lumière. Et il agit. Il est bien réel, il a une énorme puissance, il est à l'œuvre, il est actif, il est sage, il a eu littéralement des milliers d'années pour parfaire ses attaques, ses stratégies. Et il est là, comme Pierre dit, il rôde, alors il tourne autour, il cherche la faille. Si jamais vous avez vu des documentaires sur des lions, donc comme il est présenté ici, comme un lion rugissant, vous voyez des lions qui tournent autour, peut-être des animaux. Et vous allez vous apercevoir que le lion, aussi fort qu'il soit, et d'ailleurs souvent ce sont les femelles qui se mettent à l'œuvre, il ne s'attaque pas au plus fort. Puisque finalement, les animaux ont des défenses. Et le lion, la lionne, ne s'en prendra pas au plus fort. Non, va chercher l'animal qui est faible. L'animal qui est un peu à la traîne. Qui ne fait pas attention. Et Satan, il fait pareil. Il cherche la faille. Il cherche la faiblesse. Et croyez-moi, il sait la trouver. Il est intelligent. Il est puissant. Il est sage dans ce sens malin. intelligent à faire le mal. Et son but est de détruire, de déchirer, de dévorer, comme Pierre va l'expliquer. Et avec notre propre force, alors malheureusement il faut commencer avec la mauvaise nouvelle, mais avec notre propre force, on est totalement incapable de lui résister ou de faire quoi que ce soit contre lui. Alors, ne soyez pas découragés, on va arriver dans un instant à la bonne nouvelle. Mais Satan est là, et honte à nous si nous oublions qu'il est notre adversaire, qui cherche activement à nous faire du mal, de nous dérailler, de chercher la faille dans notre vie, de l'exploiter. Nous avons besoin de recentrer notre focalisation, de ne pas oublier que Satan est là. Dieu lui donne une certaine liberté. Dieu lui donne un certain pouvoir. La Bible l'appelle le prince du pouvoir de l'air, qui agit dans ce siècle. Il n'a pas simplement agi dans le passé. Il a agi dans le passé, bien sûr. Mais il agit encore aujourd'hui. Et ici, Pierre ne voulait pas que ces chrétiens soient ignorants. Non, il dit, sachez. Sachez cela, rappelez-vous, soyez alertes, veillez. Satan est à l'œuvre, il est actif, il cherche pour dévorer. Satan n'est pas gentil, bien sûr. Non, il va peut-être présenter des choses qui peuvent sembler bon, qui peuvent sembler bonnes au départ, mais à la fin, non, c'est pour la destruction. Et si on n'avait que ce verset 8, croyez-moi, on serait tous bien découragés. On se dit, mais avec un tel adversaire, avec quelqu'un tellement puissant, tellement sage pour faire le mal, avec tellement d'expérience, que pouvons-nous espérer? Et c'est là où intervient le verset 9, et même la suite. Puisqu'il est vrai, Satan est fort. Satan est malin. Il est le malin. Satan, il agit à tout moment. En même temps, regardez le verset 9. Résistez-lui. Là, on peut se dire, mais qui suis-je, moi? Avec mes quelques trentaines d'années, peut-être vous, un peu plus, quelques-uns ici, c'est un peu moins. Mais finalement, mes quelques décennies ici sur la terre, avec le peu d'expérience que moi j'ai, bah, face à Satan, littéralement des milliers d'années pour parfaire ce qu'il fait, qui suis-je, moi, à l'affronter? Et Pierre dit, résistez-lui. Donc ça veut dire, c'est possible. Et voilà la note d'espérance qui commence à sonner. Résistez-lui. Et là, il dit, avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Donc on arrive au cœur de la chose. La confiance. Mais la confiance en qui? Ben bien sûr, c'est Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc cette confiance que Paul, lui, va appeler inébranlable. Les attaques peuvent venir. Des tremblements de terre peuvent arriver. Le vent peut souffler. La pluie peut descendre. La maison va résister, si vous connaissez le chant. Ici, Pierre dit, cette foi doit être ferme. Parce qu'une foi qui vacille, qui est ballottée, comme dit Jacques, bah finalement, ce n'est pas la vraie foi. Non, la foi doit demeurer ferme, cette confiance. Mais confiance en quoi au final? Finalement, c'est en Dieu, sa personne, mais aussi en ce que Dieu dit. Puisque si on se souvient où est la première fois où Satan, lui, il va intervenir dans l'humanité, ben, c'est dans Genèse chapitre 3. Et qu'est-ce qu'il va faire là? Eh bien, Satan va chercher à déstabiliser la confiance de Ève en Dieu. Pourquoi? On ne prendra pas le temps ce matin d'aller voir, mais vous connaissez l'histoire. Satan se présente à Ève et remet en question ce que Dieu dit. Et va aller jusqu'à dire, Dieu vous trompe, Dieu vous a menti, et finalement, si Dieu ne veut pas que vous mangiez de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'il sait le jour où vous mangerez, vous allez devenir comme lui. Et Dieu ne veut pas cela, alors il vous prive de quelque chose. Et là, Ève commence à réfléchir. Ah, mais Dieu m'a dit une chose, j'y croyais jusque-là, mais maintenant on m'annonce autre chose. Et on cherche à ébranler, à faire tomber cette confiance. Et malheureusement, Ève a cédé. Et pour qu'il soit bien clair, vous et moi, on aurait cédé aussi. Et donc, ne croyons pas qu'on soit meilleur que Adam et Ève. Mais depuis le début, Satan a cherché à mettre en doute Dieu et sa parole. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Jésus, dans l'évangile de Jean, va appeler Satan le père des mensonges. Il ment depuis le début. Et s'il a menti depuis le début, est-ce que vous croyez qu'il ment encore aujourd'hui ? Absolument. Satan vous ment. Ce que Satan propose n'est pas bon, est à rejeter. Et tout ce qui n'est pas conforme à la Bible, bah, il faudrait se dire, ceci vient peut-être. Alors, encore une fois, attention, peut-être, pas toujours, mais peut-être vient de Satan. Alors, à ce moment-là, c'est à rejeter. Et ici, Pierre dit, résistez-lui, résistez à Satan. C'est possible, mais seulement lorsque nous restons ancrés, fondés dans la parole de Dieu. Si Satan nous arrive à nous faire douter de la Bible, à ce moment-là, tout espoir est parti. Si nous n'avons pas la Bible comme base, aucun espoir de pouvoir résister à Satan. Par contre, si nous avons cette confiance dans la Bible, si nous ne la remettons pas en question, si nous continuons de faire confiance à Dieu, ah ben là, Satan n'y peut rien. Résister lui avec une foi ferme. Et c'est par ces versets que Pierre montre que finalement, Dieu donne un champ d'action à Satan. Dieu permet à Satan de faire beaucoup de choses. Lui laisse une grande liberté. Mais que finalement, Satan ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui permet de faire. Que finalement, c'est Dieu le plus fort. Et de loin, malheureusement, cette idée s'est glissée dans le monde et peut-être même parmi les chrétiens, comme quoi le bien et le mal, Dieu et Satan seraient presque des puissances égales. Et Dieu serait peut-être un tout petit peu plus que Satan, donc il va gagner bien sûr, mais voilà, il est juste un peu plus fort que Satan. Alors bannissez cette idée de votre esprit. Et si jamais vous l'entendez, ben dites, c'est pas biblique. Parce que Dieu, à côté de Satan, ben, il n'y a pas photo, comme on dit. Satan ne peut rien faire sans que Dieu lui permette. Et nous avons des preuves de cela. Job, ce grand exemple, cet homme juste, droit, devant Dieu, attaqué par Satan parce que Dieu l'a permis. Mais Satan ne pouvait pas aller au-delà. Dieu lui dit, tu lui enlèves tous ses biens, mais tu ne touches pas à son corps. Alors, Satan a enlevé les biens, mais n'a pas touché à son corps. Après, Dieu lui dit, bah, tu peux maintenant le rendre malade, mais tu ne lui enlèves pas la vie. Donc, Satan fait ça, mais il ne peut pas aller au-delà. Et Pierre lui-même a expérimenté cela. Souvenez-vous, c'est dans Luc chapitre 22. Encore une fois, on n'ira pas le voir. Mais Luc chapitre 22, Jésus va expliquer à Pierre directement, Satan cherche à vous cribler. Cherche à vous avoir. Mais là, cette magnifique phrase, j'ai prié pour toi. Pierre a dû se souvenir de cela. Autant il s'est souvenu qu'il a trahi Jésus, et quelle tristesse ça devait lui apporter, autant il s'est souvenu, mais Jésus a prié pour moi. Et Satan a voulu m'avoir pour faire ce que lui, il voulait, mais Dieu n'a pas permis. Satan est totalement sous la puissance de Dieu. Et Satan ne peut rien faire, ni contre vous, ni contre moi, ni dans ce monde, sans que Dieu le permette. Ne nous trompons jamais là-dessus. Et puis, Satan, contrairement à Dieu, n'est pas partout à la fois. Heureusement d'ailleurs. Qu'est-ce que je loue Dieu pour ça? Satan, il est limité. S'il est en train d'attaquer quelqu'un à l'autre bout du monde, ça veut dire qu'il n'est pas en train de m'attaquer moi. Hein? Non pas que je souhaite que ces personnes soient attaquées, mais voilà, Satan n'est pas partout. Et puis, Satan n'a pas toute connaissance. Satan sait énormément de choses. Satan connaît la Bible, il connaît la fin. Mais Satan ne sait pas tout. Heureusement, encore une fois. Satan est sous le contrôle de Dieu. Et cela nous permet d'affirmer que quelle que soit la situation qui arrive dans notre vie, qu'elle soit de Satan, qu'elle soit éventuellement de ces anges déchus que nous appelons des démons, qui agissent dans le monde, que ce soit à cause du péché des uns des autres, que ce soit notre propre péché, tout cela n'échappe pas à Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu n'a pas pu gérer cette situation. Cette semaine, j'ai pu présider une cérémonie, les obsèques pour un jeune homme de 18 ans. Qui a eu un malaise cardiaque et qui est mort il y a une semaine et demie environ, peut-être deux semaines maintenant, presque. 18 ans, vous imaginez ? Malaise cardiaque et puis il part. Bon, gloire à Dieu, ce jeune homme, il était sauvé. Donc il est auprès de Dieu. Mais ce jeune homme se destinait à être pasteur. Il avait exprimé le désir de se former et être pasteur. Et là, on se dit, mais Dieu, quelle injustice ! Non mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu, tu n'aurais pas pu empêcher cela d'arriver. Et bien sûr, la réponse est oui. Oui, il aurait pu. Dieu ne s'est pas trompé. Il a permis. Et quelque chose qui arrive dans votre vie, une panne, une maladie, une facture inattendue, une tension, une incompréhension, des problèmes au travail, des problèmes dans la famille, tout ce que vous voulez, même des attaques directes de Satan qui sont réelles, même si je suis convaincu elles sont peut-être un peu plus rares qu'on pourrait le penser, mais elles sont bien réelles, ces attaques. Tout cela reste quand même sous le contrôle de Dieu. Dieu est là pour gérer chacune de ces situations. Et c'est cela qui nous permet de pouvoir résister à Satan, en sachant que ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Non, 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 c'est Dieu. Et lorsque nous gardons cette foi ferme, qui ne bouge pas, peu importe ce qui arrive, à ce moment-là, nous avons la victoire. Et puis, Pierre explique quelque chose au verset 9. Lorsqu'il dit, bien sûr, résistez-lui avec une foi ferme, sachant, encore une fois, il ne veut pas que ces chrétiens soient ignorants. Malheureusement, nous sommes trop ignorants parfois, parce que nous délaissons la Bible, nous délaissons la méditation de Dieu, de sa parole. Mais ici, Pierre ne voulait pas que ces gens soient ignorants, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pierre dit, avec gentillesse, mais aussi avec fermeté, vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Et quelqu'un qui passe par la souffrance n'aime pas entendre ça. Parce qu'on se dit, mais oui, je sais, mais moi je souffre. Ok, les autres souffrent, d'accord, je comprends bien, mais moi je souffre. Et ma souffrance, elle est grande. Et lorsque nous souffrons, il y a cette tendance, et il faut demander à Dieu l'aide pour surmonter, mais il y a cette tendance à dire qu'on est un peu le seul, qu'on est le premier à passer par cette circonstance ou qu'on est un peu tout seul. Et Pierre dit non, 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 non. Depuis le début de cet épître, Pierre était en train de montrer comment Dieu rassemble autour de lui les frères et sœurs. Il a parlé de la maison de Dieu. Et il dit ici, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a d'autres qui souffrent et, c'est sous-entendu ici, qui surmontent, qui sont victorieux. Il y a d'autres qui ont pu résister à Satan avec cette foi ferme et qui ont eu la victoire. Ces mêmes souffrances sont imposées. Cela leur arrive. Ils ne cherchaient pas, bien sûr, mais cela leur arrive. Et Pierre dit, oui, votre souffrance est réelle. Il ne faut pas minimiser cela. Et par la grâce de Dieu, on peut surmonter, mais aussi penser à vos frères et sœurs. Et nous parlons de nos frères et sœurs persécutés. Il ne faut pas les oublier. Que ce soit en Moyen-Orient, dans des pays communistes, partout où il y a la souffrance, nous devons réfléchir et dire « Mes frères et sœurs aussi souffrent, je ne suis pas le seul. » Et cela nous permet de pouvoir résister à Satan. Parce que lorsque nous nous isolons, à ce moment-là, nous sommes faibles. Et Satan aura la possibilité d'avoir le dessus sur nous. Et Pierre dit, ces souffrances, oui, sont imposées à vos frères, tout comme vous. Alors ne croyez pas que vous êtes seuls. Et tout comme Dieu les aide, Dieu vous aidera. Et c'est justement ce qu'il évoque au verset 10. Le Dieu de toute grâce. Oui, Satan est là. Il est puissant. Oui, il y a des souffrances. Oui, parfois on ne comprend pas du tout ce qui se passe, mais qui est là aussi ? Le Dieu de toute grâce. Ce Dieu généreux, ce Dieu bon, ce Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Cette souffrance par laquelle nous passons, oui, elle est dure. Oui, ça semble être comme la plus grande chose de tous les temps. Ça semble peut-être consumer notre vie, mais finalement, ça va durer un certain temps. Qu'est-ce qui va durer dans l'éternité ? C'est la gloire de Dieu. Les souffrances ne dureront pas l'éternité. À un moment donné, les souffrances s'arrêteront. À un moment donné, Dieu va essuyer toute larme des yeux. Un jour, il n'y aura plus de mort. Un jour, il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura pas toutes ces choses auxquelles nous sommes sujettis aujourd'hui. Ce qui restera, c'est la gloire de Dieu que nous pouvons et que nous allons partager. Nous avons été appelés en Jésus-Christ. Vous pouvez noter à côté le passage de Romains chapitre 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Paul, il emploie le même mot. Appelés selon son dessein. Et puis, on cite souvent ce verset, mais malheureusement, on ne cite pas aussi souvent la suite. Parce que Paul va dire, ce qu'il a appelé, il a aussi glorifié. Et puis, il va faire toute une exposée de ce que Dieu a fait pour nous perfectionner. Et on a l'impression ici que Pierre, il va faire exactement la même chose. Cette souffrance par laquelle nous passons, elle est temporaire. Elle est réelle, bien sûr, mais elle est temporaire. Ce qui restera, ce qui est éternel, c'est la gloire que nous allons partager avec Dieu en Jésus-Christ. Il parle de sa gloire éternelle. Et puis, il évoque cette idée temporaire. Regardez dans le verset 10, « Après que vous aurez souffert un peu de temps. » Alors, ce peu de temps, il peut durer quelques années. Peut durer même toute une vie. Et à ce moment-là, on se dit, « Mais c'est sans fin. » Non mais Seigneur, je veux en être délivré. Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, pourquoi tu n'enlèves pas ceci? Pourquoi tu ne délivres pas? Pourquoi tu ne guéris pas? Pourquoi? Et à chaque fois, il faut répondre à ces questions parce que c'est dans ta volonté. Parce que tu es le Dieu grand, puissant, Si tu avais voulu autrement, tu aurais fait autrement. Et finalement, cette souffrance, aussi dure, aussi intense soit-elle, elle est pour un peu de temps. Paul, il va s'exprimer ainsi dans la première épître aux Corinthiens, cette souffrance par laquelle nous passons, elle ne saurait être comparée à la gloire qui nous est réservée. Paul, Pierre, les chrétiens du premier siècle, ils avaient compris. Ce verset dans Actes chapitre 5, Pierre et Jean, ils reviennent chez les disciples après avoir été battus, après avoir été défendus de parler au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour Christ. Alors, si ça, ce n'est pas une vie radicale, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et Pierre, il a expérimenté cela. Et il appelle les chrétiens de son époque, aujourd'hui, d'avoir cette perspective réaliste. On n'a pas une perspective d'utopie. Non, on est réaliste. Satan est là. La souffrance est là. Le péché est là. Ce monde, il va mal. Oui, on le voit, et de plus en plus. Mais tout aussi réel, c'est le fait que Dieu est à l'œuvre. Et pas juste de façon générale dans la vie de chacun. Dieu est à l'œuvre dans votre vie, dans la mienne. Il était à l'œuvre hier. Il est à l'œuvre aujourd'hui. Il sera à l'œuvre demain et jusque dans l'éternité. Et cette souffrance par laquelle nous passons doit être comparée à la gloire qui nous est réservée en Jésus-Christ. Et lorsque nous faisons cette comparaison, encore une fois, pas de photo. Nous pouvons persévérer. Nous pouvons aller jusqu'au bout. Et Pierre explique que finalement, c'est Dieu qui le fait. Alors regardez de nouveau le verset 10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il ne laisse pas ça à quelqu'un d'autre. Il ne va pas déléguer cela. Non, non, non. Dieu lui-même nous perfectionnera, nous rendra parfaits. Pas simplement matures, comme souvent nous utilisons le mot ou que la Bible l'utilise, mais totalement parfait, sans péché, semblable à Jésus-Christ. C'est ça qui nous attend. Mais il ne s'arrête pas là. Vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera. Et là, regardez, vous rendra inébranlable. Oui, il le fera dans le futur. Mais nous voyons aussi qu'il le fait aujourd'hui. Cette foi ferme du verset 9, d'où vient-elle? Elle vient de Dieu finalement. Jésus avait dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une foi comme un grain de sénévé. Tout petit. Et pourtant, cette foi-là, parce qu'elle est placée en Dieu, elle est capable de faire bouger des montagnes. Et ici, nous voyons que c'est Dieu qui le fait. Si on enlève Dieu de cette équation, bien sûr, on va échouer. Rien ne réussira. Et nous sommes les plus malheureux des hommes. On sera dans le désespoir total. Mais parce que Dieu est là, parce qu'il a prévu toutes ces choses, oui! Tout est possible. Paul, il a pu le dire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce ne sont pas mes forces. Ce n'est pas mon intelligence. Ce ne sont pas mes expériences. Tout l'enseignement que moi j'ai reçu, mon arrière-plan. Non, 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 non. C'est Dieu. Et aujourd'hui, peut-être Satan attaque notre vie. Peut-être Satan attaque votre vie. Peut-être Satan attaque cette église. Satan n'aimerait rien de mieux que de voir cette église sombrer, soit dans la routine et une vie d'habitude, ou pire, voudraient voir la division et voir cette église éclater, fermer les portes, et puis chacun va son chemin, faire ce qu'il veut. Voilà ce que voudrait Satan. Satan voudrait détruire les familles. Satan voudrait nous tenter, et il le fait avec le péché. Satan a tenté de tenter, il a essayé et il a fait, il a tenté le Fils de Dieu. S'il a fait ça, croyez-vous que vous et moi, on serait à l'abri? Non. Si Satan a tenté le Fils de Dieu, il va le faire avec nous aussi. Non pas que toute tentation vient de Satan, mais il va tenter. Il va nous mentir. Il va essayer de remettre en doute la parole. Et à ce moment-là, ce qui change tout, c'est le fait que Dieu est là. Et lorsque Dieu est là, la puissance de Satan, elle n'est rien. Vous prenez l'homme le plus fort du monde. Je ne sais pas qui c'est en ce moment, mais je suis certain, ils font des concours et tout. Vous prenez l'homme le plus fort. Et puis à côté de lui, vous mettez un petit enfant de 2 ans. Et on dit, on va avoir un concours. Et on va mettre ce gros pneu qui pèse des kilos et des kilos. Et on va voir qui peut tirer cela jusqu'à l'autre bout là. À votre avis, qui va gagner? Là, on dit, c'est même ridicule de mettre ça en place. Parce que, cet homme fort, bien sûr, il va le faire. Et c'est comme cela que nous devons voir la tension entre Dieu et Satan. Et même cela, finalement, ce n'est pas assez grand qu'on contraste. Le contraste, il est tellement grand. À côté de Dieu, Satan, il n'est rien. Il n'est vraiment rien. Et de lui, nous ne devons avoir aucune peur. Non, devant Satan, quel doit être le sentiment dans notre vie? La confiance. Ce monde invisible, les actions de Satan, ses tentations, tout ce que lui, il chercherait à faire, devant cela, notre réaction doit être la confiance en Dieu. Et de savoir que la souffrance par laquelle nous passons en ce moment, ou même la souffrance à laquelle nous serons assujettis par la suite, ne durera qu'un certain temps. Ce n'est pas éternel, non. La souffrance terminera un jour. Peut-être pas au moment où nous souhaitons, parce que souvent nous voulons que la souffrance arrête maintenant. Demain, c'est trop tard. Non, aujourd'hui, Seigneur, il faut que tu agisses. Mais si ce n'est pas son plan, de nouveau, il faut lui faire confiance. Et de savoir que tout comme Satan est à l'œuvre, il est actif. Lui, il ne se repose pas. Il est toujours là pour essayer de faire tomber, pour diviser, pour dévorer. En même temps, Dieu est tout aussi présent. Et je dirais, il est plus présent. Il est présent davantage que Satan, parce que Dieu est partout. Et alors qu'il m'aide, moi, dans ma vie, exactement en même temps, il vous aide dans votre vie. Nous ne sommes jamais en dehors de l'aide que Dieu veut nous apporter. Les tentations de Satan cesseront un jour. La souffrance cessera un jour. L'injustice de ce monde cessera un jour. Le péché sera banni un jour. Et parce que cela est le cas, et parce que la gloire de Dieu est ce qui est éternel, aujourd'hui, le 22 juillet 2018, il nous faut faire confiance à ce Dieu. Parce que lorsque nous le faisons, la victoire, elle est assurée. Souvent, la victoire, on ne sait pas trop. Peut-être une équipe va gagner, peut-être l'autre gagnera. Mais avec Dieu, la victoire est assurée. Pas de doute. Et c'est ce qui permet à Pierre, dans le verset 11, de dire à lui. Donc à ce grand Dieu qui est toujours actif, qui est en train d'agir dans votre vie en ce moment. En cet instant même, Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Vous allez me dire, mais je ne le ressens pas. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de le ressentir pour que ce soit vrai. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Et à cause de cela, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Cette louange. Lorsque nous pensons à Satan, au lieu de nous décourager, peut-être nous faire déprimer, nous tirer vers le bas, non, au contraire, ça doit nous ramener vers le haut. Pourquoi ? Parce que lorsque nous pensons à Satan, nous pensons à sa destruction et nous pensons à la victoire de Dieu. Et aujourd'hui, parce que Dieu est celui qui aura le dernier mot, nous devons le louer. Un manque de louange sur la bouche des enfants de Dieu révèle un manque de confiance en Dieu. Et c'est le cœur qui doit être changé. Il ne s'agit pas juste d'apporter quelques paroles de louange en plus pour dire « Ah oui, je veux faire bien ». Non, la louange doit venir de ce cœur confiant en Dieu. Et si, en examinant notre vie, on se rend compte que cette louange n'est pas présente, ça veut dire qu'il y a un gros, gros souci. Ce n'est pas une petite chose. Non, c'est un gros souci. Ça révèle un manque de confiance en Dieu. On peut chercher toutes les excuses qu'on veut, mais voilà ce que nous dit le texte. La confiance en Dieu va stimuler automatiquement la louange. Alors, quelle est notre perspective ? Devant des attaques de Satan qui arrivent, qui vont arriver, est-ce que nous allons chercher à y faire face avec notre propre puissance ? Est-ce que nous allons sombrer ? Est-ce que nous allons céder ? Ou au contraire, est-ce que nous allons faire confiance à Dieu pour avoir la victoire que lui, il veut, afin de pouvoir le louer comme il le mérite ? Le choix nous appartient. Dieu ne nous y forcera pas. Mais le choix est là. Et la victoire, elle est assurée. Pas du tout de doute. Lorsque nous faisons cette confiance à Dieu. Quel choix allons-nous faire ? Quel choix allez-vous faire ? Quel choix ferai-je ? Par la puissance de Dieu, faisons ce choix de continuer de résister à Satan avec une foi ferme afin que Dieu soit glorifié. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons que tu t'es révélé dans ta parole. Nous te louons que tu as révélé la réalité de cette vie, des dangers, des attaques de Satan, mais tu as révélé tout aussi clairement que tu es là et que la victoire est possible avec toi. Merci que tu es celui qui soutient, tu es celui qui perfectionnera, qui affermira, qui fortifiera, qui rendra inébranlable, et tu es déjà en train de le faire. Nous voulons t'exalter pour cela. Nous voulons nous joindre à Pierre pour t'apporter toute la louange qui t'est due. Te remercier d'avance pour ce que tu feras. Tu es si merveilleux, tu es si grand. Que tu nous aides dans toutes circonstances d'avoir cette réaction de confiance, de foi envers toi. Que ce soit vu, Seigneur, qu'il soit évident que c'est toi qui le fais et que ainsi ton nom soit exalté, élevé parmi nous, dans ce monde, là où tu nous places. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Amen.